on explore cette dimension de qualité de présence à chaque instant. Et je crois que c'est important d'intégrer le fait qu'il s'agit de prendre son temps. Prendre son temps signifie beaucoup de choses. Et il n'y a aucun doute que prendre son temps, ça signifie également intégrer toutes les différentes phases de la pratique. Et il y en a beaucoup de phases dans cette pratique. C'est un processus qui est assez long, un chemin de dépouillement, un chemin de lâcher prise et non pas de cumul d'expérience. Et je crois que notre attitude d'habitude de vouloir améliorer, transformer, eh bien, rend ce chemin de transformation encore plus lent au niveau de notre envie d'en avoir fini. S'il y a un attachement à un résultat, ceci va vraiment nous demander de nous positionner à pouvoir se mettre en phase par rapport à l'attitude méditative. Et cette attitude méditative est là où se situe la pratique. Donc le thème de l'enseignement de ce soir est l'acceptation inconditionnelle. Car il s'agit bien de nourrir une acceptation inconditionnelle, sans condition. Il n'y a aucun doute qu'on vient ici pour se ressourcer, pour certainement se détendre, se rééquilibrer, se recentrer, peut-être également déposer une certaine fatigue. Mais le but de la méditation, comme l'a dit Charles ce matin, est bien plus profond que cela. Il y a un chemin qui mène à la non-saisie, à la liberté inconditionnelle, d'où un besoin d'acceptation inconditionnelle, qui s'agit de rencontrer au fil des expériences, et le positionnement est vraiment différent de celui de notre habitude. Lorsqu'on est perdu dans les pensées, généralement, on n'est pas en conscience. Et ici, la qualité de présence se situe vraiment dans un autre registre que celui des pensées. Et donc la découverte de ceci est quelque chose qui prend un certain temps. L'attention méditative requiert la plus grande détente. Les grands maîtres disent, plus grande est la détente, meilleure est la méditation. Alors que la plupart du temps, lorsqu'on commence et qu'on n'a pas vraiment cette qualité d'aptitude à être en rencontre avec soi-même, nous allons exactement cultiver l'inverse. On va se tendre, se forcer à essayer d'être présent et naturellement, ceci nous crée beaucoup de problèmes superflus. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Donc, on va naturellement aller dans les extrêmes, d'essayer de changer les expériences. Et à un moment donné, il y a une attitude qui fait que l'esprit, on s'en rend compte, va mieux contribuer, va collaborer d'une certaine manière et surtout va s'en trouver rafraîchi. Et de ce fait, il y a une grande chance que celui-ci choisira d'être en contact plutôt que d'être absent. Et ceci se passe naturellement dans le processus de la méditation. Et il se passe d'autant plus vite si on n'essaye pas de le figer et de le dresser, car il y a vraiment cette attitude souvent de dressage, comme on dresserait un chien. Reste ici, ça se passe ici. Et notre attitude, bien qu'elle soit vraiment simple, comme je l'ai dit ce matin, il n'y a pas grand-chose de compliqué. Et pourtant, c'est tellement loin de nous d'être en présence que on a tous eu ici, même ceux qui sont arrivés hier, notre premier trait de compréhension intuitive, on peut dire, ou de compréhension qui ne vient pas de la source des pensées, mais du vécu, de l'expérience, qui est qu'il est très difficile d'être présent. C'est vraiment une tâche extrêmement difficile. Et ça, c'est assez fascinant. Je sais que pour ma part, la première fois que j'ai réalisé ceci, je me suis dit, mais c'est vrai, j'avais même pas pensé avant qu'on soit militant. Est-ce que vous avez l'impression de ne pas être présent? Bien sûr que vous êtes présent, d'une certaine manière. Présent à ce que vous faites, concentré par rapport à accomplir une tâche, présent, concentré dans une lecture, concentré à accomplir un travail. Mais la concentration ici n'est pas ce dont on parle. Nous parlons de pleine conscience et cette qualité de pleine conscience, présence à elle-même, la conscience qui se révèle à elle-même, qui est exactement ce dont il s'agit par le biais des expériences qui vont et viennent, quelles que soient ces expériences, est quelque chose de tout à fait nouveau pour nous. Donc nous sommes projetés à l'extérieur, projetés dans le passé, projetés dans le futur, perdus dans les expériences. Une certaine forme de concentration peut très bien également être perdue aussi dans la respiration, même si cette expérience a été choisie comme point d'ancrage, on peut être absorbé dans la respiration et pas du tout être présent à la respiration. Donc ceci vraiment demande une attitude bien différente de celle qu'on connaît. La première des choses est de se rendre compte qu'il ne suffit pas d'analyser, d'interpréter, de juger les expériences qui passent. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qui va nous aider dans le sens d'acceptation. S'il y a du jugement, s'il y a une manifestation d'évaluation et d'appropriation par rapport aux expériences, il s'agit de s'en rendre compte. Car tout le vécu de l'expérience dans le processus méditatif ne se situe pas à ce niveau-là. Il se situe au niveau du senti, de l'expérience directe, comme on l'appelle, et non pas au niveau des concepts, des interprétations, des idées et des ajouts qu'on fait sur l'expérience. Donc la plupart du temps, nous vivons à ce niveau-là. Nous interprétons, c'est bien, c'est pas bien, ma méditation est bonne, elle est bonne quand? Quand c'est vraiment plaisant, que j'aime ce qui se passe. Ma méditation n'est pas bonne quand? Quand les expériences sont désagréables et que j'ai mal, par exemple, dans une zone du corps. Donc, j'interprète ma méditation comme étant bonne ou mauvaise. Et dans le registre de la pratique, ceci n'a absolument aucune conséquence par rapport à une bonne ou une mauvaise méditation. Une bonne méditation va dépendre de quoi? De notre qualité de présence. Quelles que soient les expériences qui nous traversent. C'est la qualité, stabilité de présence qui va nous révéler si une méditation est bonne ou pas. Donc, voyez combien vous pouvez interpréter. Il y a une simplicité de contact au niveau du vécu de chaque instant qui s'établit et qui se soutient. Donc, nous soutenons la qualité de présence au présent. Et tout ceci, bien sûr, est aidant pour les personnes qui débutent. Je crois que c'est vraiment important de se rendre compte combien on est intéressé au monde extérieur et lorsqu'on commence à être un tout petit peu plus intime à soi-même, on espère trouver l'aspect plaisant qu'on trouve à l'extérieur. On est constamment en train d'essayer de rechercher ce confort. Confort par le biais des expériences sensorielles, c'est-à-dire qu'on cherche le plaisir. Maintenant, le plaisir que nous trouvons dans notre vie existentielle, il faut croire qu'il ne nous satisfait pas complètement, puisque nous sommes ici dans une salle de méditation à essayer de trouver peut-être un sens un petit peu plus profond par rapport à notre vécu. Cette notion de plaisir, elle est là, il n'y a aucun doute. On a vraiment cette chance dans cette partie du monde de pouvoir avoir beaucoup de sources de plaisir par le biais des sens. Il n'y a aucun doute que ceci est à notre disposition. Et pourtant, il semble qu'il manque tout de même quelque chose à notre existence. Et souvent, ce qui se passe, c'est que il y a dans cette attitude de méditant à l'intérieur et lorsqu'on est présent à soi, on va essayer à nouveau de trouver ce plaisir qu'on cherche par le biais des sens à l'extérieur. Et la méditation nous dit c'est bien plus profond que ça. Le sens de la méditation est beaucoup plus profond que ça. Donc, on espère trouver le bonheur au contact de nous-mêmes. Et il n'y a aucun doute que il y a des moments où nous allons nous mettre en phase à pouvoir découvrir exactement l'inverse. L'inconfort, l'insatisfaction et même les douleurs. Et en même temps, on se rend compte que la vie est en perpétuelle transformation. Que rien n'existe de manière durable. Et que ces sensations physiques qu'on a rencontrées ce matin, peut-être qu'elles se sont transformées. Qu'il y a un moment donné où on a peut-être eu des émotions aujourd'hui qui ont passé. Qu'il y a vraiment des pensées qui ont pu traverser notre esprit. Où sont-elles en ce moment? Les choses changent. Donc, par le biais de cette qualité d'impermanence, de percevoir le changement, on se rend compte que la vie est beaucoup plus dynamique qu'on pense et que notre manière de figer les expériences est exactement là où se situe notre profond mécontentement ou insatisfaction. Donc on a cette découverte d'avec nous-mêmes, percevoir cette expérience intérieure comme étant une exploration. Et naturellement, on va pouvoir également être en présence de manière proche de toutes nos stratégies d'évitement. Les stratégies d'évitement que nous avons mises en place ici même, elles se jouent aussi dans notre vie. Il n'y a aucun doute que nous allons pouvoir nous rendre compte de ceci au fil du processus de présence. Ce n'est pas que la méditation nous révèle tout à coup à nous-mêmes ce qui se passe et qu'on perçoit parce qu'on est vraiment en présence, se passe également dans notre vie. Et la réalité nous met en contact et nous demande de pouvoir demeurer en présence. Comment est-ce que j'évite? Qu'est-ce que je fais pour éviter? Éviter mon ressenti, éviter d'être présent, éviter le mal-être. Qu'est-ce qui se met en place? Donc, dans la méditation, il y a vraiment cette dimension de prise de conscience. Mais lorsqu'on parle de pleine conscience, lorsqu'on parle d'attention, souvent, oui, je suis attentive et je suis réactive. Je réagis à ce qui se passe. Et donc, attentive et réactive ne va pas forcément dans le sens d'un mieux-être. Donc la pleine attention ou attention consciente requiert cette dimension supplémentaire d'ouverture, de disponibilité qui se nomme acceptation. Et cette acceptation est absolument indispensable pour pouvoir être en accord avec les choses comme elles sont. Et l'accord des choses comme elles sont, eh bien, c'est ce que signifie, c'est le terme que veut dire vipassana. Voir les choses dans leur nature, voir les choses comme elles sont, plutôt que d'être constamment dans la rêverie, l'envie qu'elles soient différentes. Et donc, à ce moment-là, on a cette possibilité de nous ouvrir à ce qui est. Donc, être attentif, être présent, et ensuite ce deuxième élément d'acceptation, d'ouverture, de disponibilité à ressentir ce qui est là. Ce n'est pas qu'on doit fabriquer quelque chose d'autre, c'est vraiment être en présence dans la mesure du possible, remarquer ce qui est là. Ce qui signifie souvent être en présence des résistances. Il n'y a aucun doute. Parce que ces résistances, elles vont être là. Il n'y a aucun doute. Notre mode d'habitude est tellement, quelque part, créé et fabriqué. Notre mode de vie est si subtil et les évitements encore plus subtils. Nous sommes si souvent dans ce positionnement de désirer autre chose et ne pas désirer rencontrer ce qui est là. Vouloir, pas vouloir. Et ceci, forcément, est un paradoxe et il y a des polarités là qui se situent et qu'on va rencontrer. Et donc, ce vouloir, pas vouloir, double contrainte, c'est ce que on va certainement rencontrer dans notre méditation. Maintenant, la dimension d'acceptation ne signifie pas devoir être passif ou résigné. Bon, ben alors c'est là, j'accepte. Bouf. Il n'y a pas du tout cette dimension de résignation. Résignation, ça signifie ne pas s'engager, ne pas être en présence. Donc, c'est pas du tout le fait de devoir capituler parce qu'il n'y a pas d'autres moyens ou d'autres solutions. Cette acceptation ne veut pas non plus dire « je me force d'aimer quelque chose parce que c'est là et j'entends que je dois accepter, le devoir accepter ». Je crois que c'est vraiment important qu'à nouveau, si on s'impose l'acceptation, eh bien, ceci est de l'ordre du vouloir qui va normalement figer, forcer un processus. Donc, que signifie acceptation dans le sens de la méditation telle qu'elle est proposée ici? C'est simplement une prise en compte de l'actualité des choses et laisser révéler les choses comme elles sont. C'est-à-dire que la présence elle-même va petit à petit avoir un positionnement de juste milieu lorsque nous ne sommes pas constamment en train d'interférer, que l'ego, le je, le moi, n'est pas en train de vouloir ceci ou de ne pas vouloir cela, qui se nomme saisie, la qualité de présence, l'esprit lui-même, sera en position juste. Donc moins il y a d'interférences, moins il y a de manières de s'imposer dans notre pratique, dans le sens de « c'est moi qui vais faire, qui décide et qui prend les rênes, la volonté », plus il y aura cette capacité de bonne disposition, d'ouverture et de présence qui se révèle à elle-même. C'est-à-dire que moins il y a de saisie par rapport à ce qui se passe, plus il y a de présence. C'est exactement ceci qui va émerger dans ce processus de méditation qui naturellement évolue, s'approfondit au fil du temps. Et la grande découverte de cet espace d'acceptation et d'ouverture, de laisser la présence se révéler à elle-même par le biais des expériences, plus on va pouvoir être en paix. La sérénité que nous recherchons, la paix véritable, dans le sens, non pas la paix dans le sens de devoir avoir certaines conditions et certaines qualités d'expérience pour être en paix, mais une paix qui émerge quelles que soient les conditions. Donc voilà une qualité de la présence qui naturellement va dans un sens d'immense potentiel d'ouverture et de liberté. Une liberté sans condition. C'est le but du chemin de la méditation. Une liberté sans condition. Alors, bien sûr, la question peut surgir, mais comment ne pas exclure la souffrance qui se présente à moi, ou la souffrance qu'il y a dans le monde? Il y a une compréhension profonde de ce qui signifie liberté inconditionnelle. Il y a naturellement cette dimension de pouvoir intégrer le fait de la nature de l'aspiration profonde, que lorsqu'on peut être en phase à pouvoir changer ce qui peut être changé, on le fait. Mais dans la mesure du possible, nous ne sommes pas réellement en contrôle des circonstances. Et que s'il y a une opposition à ce qui émerge à ce moment-là, nous allons simplement être en friction. Donc cette présence méditative, elle se révèle au fil du processus par le biais des cinq sens. Il y a vraiment cette qualité de présence qui surgit et qui est nourrie par le biais des cinq sens. On donne tellement peu de poids, quelque part, au senti. Le goûter, le voir, l'entendre. Le toucher. Il y a vraiment cette qualité de présence qui vient par le biais du senti, qu'on a complètement laissé de côté parce que nous sommes si souvent positionnés dans un registre mental. Ce qui ne veut pas du tout dire qu'on n'a plus la capacité de penser, mais il y a un repositionnement. Il y a vraiment cette dimension de, dans la mesure du possible, laisser un peu de côté pour découvrir cette qualité de présence simple, dans la simplicité de l'instant, dans ce domaine du senti. Et le Bouddha a parlé dans un enseignement du tout, et lorsqu'il parle du tout, tout ce qui existe pour soi-même dans le monde existe par le biais de cinq sens physiques et du sixième sens, qui est ce biais du mental. Donc, être présent au senti, conscience auditive, conscience olfactive, gustative, visuelle, tactile, et conscience mentale. Voilà ce dont on peut faire l'expérience. Réellement, c'est exactement ceci qu'on va cultiver d'instant en instant. Donc cette qualité de présence ou de pleine conscience se fait par le biais de ces types d'expériences. Donc il ne s'agit pas de fuir ou d'être en lutte contre ce qui émerge, mais de pouvoir accueillir. Et bien sûr, cette qualité-là va être nourrie quand on a cette dimension de curiosité, d'investigation. Donc, d'un certain côté, il y a la réceptivité, de l'autre, il y a l'investigation. Et cette investigation, elle se fait par l'intimité de contact. Il y a vraiment cette invitation à être intimement en contact avec l'expérience. Ce qui signifie dans l'expérience, et je vais vous donner un exemple extrêmement clair. Lorsque vous entendez le gong sonner à la fin de la méditation, vous entendez ceci, n'est-ce pas? Il y a une signification lorsqu'on sonne ce gong. Dans d'autres centres, on le sonne également au début. Chez les Zen, ils sonnent le gong au début et à la fin de chaque assise. Ça a une signification. Avant la signification, l'interprétation. Ah ben voilà, je vais pouvoir changer de position. C'est la fin de l'assise. Oh combien c'est agréable. Je peux me détendre. Tout ceci est de l'ordre du mental. Avant qu'il y ait eu cette expérience de processus de prolifération mentale, il y a cette qualité sonore. On l'entend. La plupart du temps dans notre vie, on n'entend pas. On interprète. Ça signifie ceci. De la même manière que lorsque nous sommes en présence des sensations physiques, comme on vous le propose, dans le sens d'être présent à la respiration, vraiment ressentir cette qualité, vibration, pression, mouvement, chaleur, amplitude, profondeur de la respiration. La plupart du temps, pour nous-mêmes, nous ne sommes pas au registre du senti. Je respire. Est-ce que je respire juste? Non, en fait, je pourrais quand même respirer de manière un petit peu plus ample. On va voir si je peux contrôler ma respiration. Voilà le petit laus qui vient en présence de la respiration. Donc, j'interprète la respiration. Je pense à la respiration. Je pense dans le sens de vouloir une meilleure respiration. Et je ne suis pas du tout en contact avec l'expérience du senti de cette respiration. Donc, l'intimité de contact est quelque chose qu'on va découvrir, révéler. Et c'est dans cette simplicité d'acceptation de pouvoir être en présence d'une façon complètement simple. La simplicité est la meilleure des attitudes. Et demeurer en présence. S'il y a de la lassitude, s'il y a de l'ennui, c'est que nous ne sommes pas en contact. Nous sommes dans l'interprétation. Il y a une distance avec l'expérience. Lorsqu'il y a un vrai contact, il y a une qualité de vie dynamique qui est tellement extraordinaire qu'il n'y a pas la place pour se poser la question. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est faux? Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais pas bien? Il y a cette conscience qui se révèle à elle-même et qui nous révèle la totalité de notre être. Et nous ne sommes plus fragmentés. Donc, par ce biais du contact véritable, on découvre à ce moment-là ce qu'on appelle la non-saisie. Il n'y a pas d'interprétation et nous ne sommes pas en train de saisir, de nous octroyer ou nous approprier l'expérience présente. Ceci, bien sûr, demande de la pratique. Mais vous voyez qu'on va dans le sens de la simplicité plutôt que la complexité et que le dépouillement est le résultat. Donc, en général, nous pensons, nous jugeons, nous réagissons pour nous débarrasser de certaines expériences, pour en éprouver d'autres. Nous manipulons, nous trouvons des stratégies. Et forcément que tout ceci, eh bien, nous met dans un positionnement de non-acceptation. Exactement l'inverse de ce qu'on souhaite. Combien d'énergie est déployée ou a été déployée aujourd'hui en vous-même? Et vraiment, soyez sincère, honnête en vous-même pour essayer de changer l'expérience présente. Si on est sincère, je suis sûre que chacun, chacune a eu en tout cas quelques instants de moments où vous avez essayé de changer l'expérience. Lorsqu'on prend conscience de ceci, et ceci est normal puisque c'est simplement notre habitude. Nous sommes conditionnés de cette manière-là. Donc, quand ceci se passe, prenez-en conscience et remarquez l'énergie déployée, combien ceci contribue à vous fatiguer, plutôt que simplement être dans la présence et dire « Tiens, si je m'ouvrais à ce qui est en train d'émerger, plutôt que de m'opposer. » Donc, dans cette attitude, il y a vraiment tout un registre de découverte par rapport au rapport à l'expérience. C'est le rapport à l'expérience qui va nous aider à pouvoir demeurer dans la simplicité, demeurer dans le positionnement juste Et ceci, bien sûr, on l'apprend en perdant ce contact, en perdant ce rapport. On ne peut pas apprendre autrement. Il y a forcément toutes ces variations et ces graduations d'évitement, de résistance qu'on crée. Mais au moins de savoir que ceci n'est pas aidant, qu'il ne s'agit pas de changer l'expérience, d'interférer ne nous aide pas, quelle que soit la nature de l'expérience. Est-ce qu'elle peut être perçue, rencontrée pour ce qu'elle est? Donc, plutôt que d'échapper, nous essayons de rencontrer. Donc ça, c'est important de le savoir, qu'il n'y a pas de mode ou de technique, mais bien une attitude, un comportement qui va dans le sens du respect de ce qui est là. Le Bouddha a souligné 5 points, 5 aspects qui, si on ne les rencontre pas, sont, il l'a dit très clairement, des empêchements à l'approfondissement pour cette qualité de présence. Lorsque nous en prenons conscience et que ces 5 aspects sont vus pour ce qu'ils sont, ils deviennent des points d'appui. Comme le point d'ancrage, des points d'appui pour notre pratique méditative. Donc il s'agit de reconnaître ces aspects. Le premier aspect est d'identifier la manière dont on s'attache aux choses plaisantes ou qu'on désire les choses plaisantes. Identification à tout ce qui est plaisant, croyant que par le biais de l'attachement, nous allons pouvoir avoir plus de confort intérieur. Donc, il nous est demandé de ne pas nous perdre dans cet attachement. Ce qui ne veut pas du tout dire ne pas profiter de la vie. Des fois, il y a une incompréhension en disant « Ouh là là, faut surtout pas que j'aille au plaisir parce que je vais peut-être m'y attacher ». Lorsque il y a des moments plaisants, nous les goûtons. Il y a vraiment cette dimension dans l'enseignement. Il n'y a pas du tout cette annihilation du plaisir. Il y a du plaisir, le Bouddha décrit très clairement, s'il y a du plaisir sensuel, appréciez ce plaisir sensuel. Lorsque celui-ci n'est plus là, c'est là que vous devez percevoir. Il est passé, il s'en est. Allez, il y a autre chose qui se présente et s'il y a un attachement à vouloir le conserver, ce plaisir égale souffrance, tout simplement. Donc, se rendre compte que même ce qui est plaisant, lorsqu'on a vraiment envie que ça se reproduise, et ô combien ça peut également se situer dans le registre du processus méditatif, les expériences méditatives peuvent être vraiment source d'attachement. Et que s'il y a quelque chose de plaisant qui s'est produit dans une méditation, eh bien, on va essayer de retrouver ceci. Ce fait même, cet aspect-là de désir-attachement, vouloir conserver le plaisir qui n'est plus ou rechercher à reproduire quelque chose, eh bien, est de l'ordre de la souffrance. Important d'en prendre conscience. On prend conscience de ceci. Il ne s'agit pas de l'éliminer, le reconnaître suffit. Pourquoi ? Parce que cette qualité de pleine conscience a ce pouvoir extraordinaire d'être en phase avec un aspect qui est douloureux et de le rendre neutre. Parce qu'il n'y a pas d'attachement. Donc, dans la qualité même de la présence méditative, pleine conscience, il n'y a pas de désir-attachement, d'aversion ou de confusion. Donc, la pleine conscience va éclairer cet attachement et ça va tout simplement disparaître. Il y a un pouvoir de sagesse dans cet esprit. Voilà pourquoi on parle d'acceptation inconditionnelle. Donc on reconnaît, et en même temps, s'il y a vraiment cette qualité de présence qui ne cherche pas à changer les choses, aucun problème. Désir, attachement égale désir, attachement, c'est vu pour ce que c'est. La plupart du temps, nous n'en sommes pas conscients. Voilà le souci. Donc voilà pourquoi nous cultivons cette qualité de conscience d'instant en instant. Et ceci à chaque instant. Ça se passe toujours au présent. Deuxième aspect dont il faut prendre conscience est exactement cet aspect dont j'ai parlé un tout petit peu, c'est l'aversion. Toutes ces manières qu'on a de repousser les expériences déplaisantes. Et on est constamment dans cette fluctuation à vouloir ce qui est plaisant, pas vouloir ce qui est déplaisant, et forcément que ceci nous met dans un état de frustration, découragement, énervement, impatience, et que lorsque c'est connu pour ce que c'est, eh bien, il y a une acceptation, une possibilité d'ouverture. Ceci se nomme réaction. Désir-attachement ou aversion sont des formes de réaction, de résistance. Donc, lorsqu'il y a une attention tout à fait ordinaire, que ce n'est pas la pleine conscience, on va ajouter de l'aversion à l'aversion et de l'attachement à l'attachement. C'est ça qui se passe. Maintenant, on peut le comprendre intellectuellement. Ce n'est pas très compliqué. Vous avez certainement dû entendre cet enseignement à une autre occasion. Et pourtant, la réalité de ce vécu, si vraiment c'est éprouvé dans le registre de l'expérience directe, du vécu, une expérience vécue, sentie, goûtée, qui a la saveur qu'elle a, comme on goûte la saveur d'une pomme, pas simplement en la regardant, a le pouvoir de nous libérer. Et ceci se passe dans le processus de la méditation. Simplement que, pour vraiment y croire, il faut qu'on le vive plus d'une fois. Malheureusement, la force du conditionnement, la force de notre attachement, la force de nos croyances sont tellement grandes que vous savez combien de fois on doit éprouver ceci pour vraiment d'abord y croire et puis vivre de cet espace. C'est incroyable. Ça, c'est quelque chose qui vraiment m'interroge et qui continue dans mon propre processus de vie en tant qu'être humain, de me dire, mais combien de fois je dois passer par là et vivre par cette expérience pour vraiment savoir que ce chemin-là, il ne va pas du tout dans le sens de m'apporter plus de sérénité, de paix intérieure. Et on le sait. Et pourtant, c'est extraordinaire. Je trouve vraiment ça totalement fascinant. Il faut croire que la force du conditionnement à un certain enracinement. Et donc, voilà pourquoi il y a des stages de retraite intensive pour vraiment s'imprégner de cette capacité de rencontre d'avec l'instant présent et de percevoir le processus de libération, le processus qui va dans le sens d'un mieux-être, et on le ressent, heureusement, tant mieux, sinon on ne reviendrait pas. Mais beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas là dans une première retraite. Donc, il faut croire que quand même, il y a un goût et qu'il y a une saveur qu'on ressent, dont on se souvient, qu'on retrouve. Et la vie reprend le dessus et tout à coup, on se dit « Ah stage de méditation, c'est le moment de revenir pour se retrouver un petit peu, se recentrer. » Et à nouveau, l'intégration, ceci ne s'arrête pas à la rayotière. On peut très bien intégrer ceci, mais la vie a son rythme et d'autant plus rapide, trépidant aujourd'hui qu'il y a quelques années. Donc, on n'est tout simplement pas en contact. C'est ça qui se passe. C'est que nous ne sommes pas suffisamment en contact pour se rendre compte de ce qui se passe et d'aller dans le sens qu'on connaît très bien. Cette connaissance, nous l'avons, connaissance intuitive vécue eh bien, un peu moins. Donc, désir attachement, aversion. Reconnaître la souffrance de ces réactions, naturellement, nous fait petit à petit lâcher prise. De la même manière qu'on ne va pas tenir longtemps un charbon ardent. On le lâche. Il fait mal. De la même manière, on va lâcher ce désir attachement et cette aversion à un moment donné. Ceci requiert de la patience et une attitude de réceptivité, d'ouverture dont vous allez entendre parler toute la semaine. Sous différentes formes, mais il est vrai qu'on dit constamment la même chose. Et qu'il faut croire que tout ce qu'on dit, eh bien, ça doit quand même être intéressant, puisque vous êtes là, et qu'il y a en même temps une telle distance de ceci que dans la simplicité de notre attitude, on a beaucoup à apprendre. On a énormément à apprendre. Troisième aspect est cette somnolence, torpeur. L'opacité de l'esprit, densité du corps, lourdeur, rigidité, manque de flexibilité de l'esprit. Il y a vraiment cette dimension de densité, de rigidité, qui manque de souplesse. Et là, à nouveau, il est important de la ressentir pour ce qu'elle est. Il n'y a aucun doute qu'une certaine torpeur peut être là, parce qu'on est arrivé fatigué, épuisé. Il y a une torpeur, une opacité, et celle-ci est tout à fait mentionnée, comme état de résistance. Ne pas vouloir être en présence, on s'en va dans la torpeur, dans l'opacité. Parfois, ceci est exprimé comme de la paresse, de l'indolence, pour simplement pas vouloir être en présence de ce qui pourrait nous révéler quelque chose de un petit peu difficile ou douloureux. Donc, il y a vraiment cette manière, à nouveau, d'être présent à la somnolence. Remarquer si cette somnolence est simplement là pour de la fatigue ou s'il y a quelque chose qui est sous-jacent, qu'il est nécessaire de rencontrer à un moment donné, de s'ouvrir à, parce qu'on peut passer beaucoup de temps dans cet état de torpeur et d'opacité. Il s'agit de l'accepter, de la rencontrer, de s'y ouvrir. Quatrième aspect est exactement l'inverse, c'est l'agitation. Donc, ces descriptions, ces cinq aspects sont toujours, à un moment donné, là, dans la vie d'un méditant ou d'une méditante. Ils vont surgir, il n'y a aucun doute. Donc, agitation, agitation mentale, agitation physique, constamment affairé, on cherche à se distraire à nouveau pour éviter, pour ne pas être en rencontre, pour ne pas être présent. On se dépêche, tout à coup on a mille et une choses à faire alors qu'en réalité il n'y a pas grand chose à faire dans une retraite de méditation. Mais c'est extraordinaire toutes les choses qu'on peut avoir à faire. Prenez conscience de ceci, c'est tellement intéressant de remarquer qu'on essaye de s'occuper. Ce qui n'est pas un problème en soi. Mais le fait même de prendre conscience de qu'est-ce qui se passe là-dessous. Quelle est la cause, l'origine de cette agitation. Si vous n'avez pas une minute, regardez. La tendance, bien sûr, se situe dans le fait de penser. Ça, c'est l'agitation principale et l'agitation qu'on va naturellement rencontrer chacun et chacune à différents moments. On réfléchit à trouver une solution à notre agitation. On y pense, on est conscient des pensées. Et puis, il est vraiment souhaitable de revenir plus à une dimension corporelle, si c'est possible, dans le sens de laisser cette agitation reposer. Et la présence corporelle va nous mettre dans un espace d'ouverture. Voilà pourquoi la conscience auditive aide dans ce registre d'agitation. Ce qui nous agite également, c'est tout ce qu'on va utiliser comme moyen pour rester à un niveau conceptuel, le niveau mental. Par exemple, tous les moments où nous lisons un livre, eh bien, c'est évident que ça nous fait réfléchir. J'imagine que vous réfléchissez, que vous n'êtes pas tout simplement en train de voir les mots et qu'il n'y a pas de réflexion. Vous lisez pour une raison. Alors, ce n'est pas un problème en soi, simplement qu'on va rester dans ce registre de réflexion, alors que dans une retraite de méditation, dans un stage comme celui-ci, c'est vraiment rare d'avoir l'opportunité de pouvoir passer de ce registre du mental, de la réflexion, de l'interprétation, au registre du senti. Mais ça peut être, pour certaines personnes, judicieux. Si vraiment c'est quelque chose d'important pour vous, c'est que ça signifie qu'il y a besoin de passer par là, mais d'en prendre conscience. Je crois que c'est ça qui est important, d'en prendre conscience. Qu'est-ce qui fait que j'ouvre un livre, par exemple, par rapport à un stage où il est proposé de simplement être, dans la mesure du possible, au contact de l'expérience directe. Donc l'esprit galopant qui est distrait n'est pas un problème en soi. L'esprit qui pense n'est pas un problème en soi. À nouveau, c'est comment est-ce que je me mets en rapport. S'il y a de l'aversion à cet espace d'être pensant, à ce moment-là, je crée un problème. Donc, être présent aux pensées, être conscient des pensées. Je suis dans le processus méditatif et je ne suis pas perdu dans le contenu du bouquin que je suis en train de lire. C'est complètement différent comme attitude et comme rapport à l'expérience. D'accord ? Donc, il ne s'agit pas de dire « Ouh là là, il ne faut pas que je lise parce que je suis en train de penser ». Il y a des pensées. Les pensées, elles sont intégrées et reçues pour ce qu'elles sont. Donc, par une qualité de présence soutenue et continue, légère et détendue, nous allons pouvoir être en présence de notre vécu de chaque instant et révéler notre être véritable. Il y a là une dimension extraordinaire de capacité, de plus grande liberté, liberté de vie, liberté au niveau de la saisie. Cinquième et dernier aspect est le doute. Ce doute sceptique, ça n'a rien à voir avec le questionnement. Se questionner, comme j'ai dit, investiguer par moment, utiliser les bonnes questions, où suis-je en cet instant, ou qu'est-ce qui se passe pour moi maintenant, est une question qui peut être tout à fait utile et nous aider à être un peu plus présents en intimité. Le doute sceptique est lorsque nous avons des pensées qui émergent et qui nous mettent dans un registre de frein absolu à demeurer en présence, frein absolu à découvrir la méditation, à découvrir le processus. Donc ces pensées, elles sont souvent tellement déguisée en pensée intelligente qu'on ne les voit pas. Et c'est tellement fascinant parce que c'est souvent ce qui se passe, justement. Ces pensées qui nous disent « Ah non, mais ce n'est pas la bonne méthode, en fait. Ce n'est pas du tout Vipassana que je voulais. Je voulais une méthode de relaxation, peut-être. Je voulais peut-être aller... dans un stage où il y a du dialogue, on travaille sur soi, pas du tout un stage en silence, j'ai malencontreusement pas regardé que c'était en silence. Voilà que je me trouve dans un stage où il n'y a que du silence. Je doute. Je doute. Pas la bonne méthode. On essaye à ce moment-là de dire, attends, j'ai peut-être la réponse dans le livre que j'ai apporté, donc je vais l'ouvrir et ça va me donner une solution. Alors que j'entends, rien ne remplace l'expérience directe. D'accord ? C'est du doute. Donc la sagesse qui se déguise sous cette forme est à voir. Ce ne sont pas ces enseignants-là qui vont m'apprendre quelque chose. Ça peut. Il peut y avoir du doute quant aux enseignants. Du doute quant à la méthode. Du doute quant à l'horaire. Toutes ces heures. Mais si on en faisait la moitié moins, je suis sûre que j'apprendrais encore mieux. Moi, je referais l'horaire. Combien de fois j'ai refait un horaire, je peux vous dire. Dans mes stages. Combien de fois voit la structure. C'est du doute. Le doute, il est tellement important de l'intégrer, de le voir pour ce que c'est. Il y a tellement de moments où on se perd dedans qu'on n'y voit pas clair. Il y a un manque de confiance quand il y a du doute. C'est très déstabilisant. Et c'est exactement cet aspect des cinq que j'ai décrit qui est le plus paralysant. Donc, s'il y a du doute, vraiment, remarquez-le. C'est normal, le doute est vu. Ah tiens, je doute. J'ai pas besoin de suivre le doute. Il y a du doute, je le reconnais pour ce qu'il est et je continue ma pratique dans la mesure du possible avec continuité. La continuité aide immensément. Et Charles a cet effet, on parle cette fois-ci, j'en suis très contente. Le plus grand doute, c'est le doute de soi, de sa capacité à pouvoir accomplir le chemin. Le doute de soi est extrêmement fréquent. Et celui-ci peut empêcher de pratiquer. Je n'y arriverai pas. Je suis vraiment pas capable d'être en présence de 5 respirations à la suite, comment est-ce que je vais pouvoir y arriver? Il y a vraiment une doute de sa capacité et si ceci émerge, quelle que soit la pensée que vous pouvez avoir pour vous-même, de ne pas être capable de sentir un manque d'estime par rapport à vous-même, par rapport à la pratique, dans votre rapport à ce qui se passe, c'est simplement du doute. Donc toutes ces pensées qui ont peut-être un grand poids par moment doivent vraiment être vues pour ce qu'elles sont, des pensées. Et aller dans le sens de l'aspiration, de vraiment nourrir l'aspiration qui nous donne une confiance. Le doute est déplaisant. Il a vraiment cette qualité, quelque part, de nous déstabiliser. Donc, d'en prendre conscience est vraiment aidant. Acceptez-le. Donc, ce processus de vie dynamique constamment changeant, un moment du doute, un moment du désir attachement, un moment de la confusion, un moment de la clarté, un moment de la joie, un moment du calme, un moment, il est constamment changeant, ce processus de vie extrêmement dynamique. Et ceci, lorsque nous ne sommes pas au niveau des concepts, car les concepts sont des choses solides, la pensée que j'ai, elle a une certaine solidification. Si je pense toujours la même chose, j'ai ces pensées, ces ruminations, elles ne changent pas beaucoup, j'ai l'impression que rien ne change, parce que je suis perdue dans les pensées. Alors qu'au niveau du processus, de l'expérience directe, c'est tout sauf solide. C'est vraiment extrêmement vivant. Donc s'il y a de la vie, appréciez-le. Et c'est ce qu'on constate. Et plus on constate ceci, plus on va dans le sens de l'acceptation et de l'ouverture. Moins il y a de résistance, plus il y a d'ouverture. L'acceptation ne veut pas du tout dire l'abandon. C'est simplement être en présence de l'actualité des choses comme elles sont. Et ceci se fait sous la forme d'un chemin, petit à petit, progressivement, d'inclusion. Donc rien n'est à exclure. Tout est source d'approfondissement. Et dans notre manière de percevoir la chose, j'ai vraiment, la plupart du temps, l'impression que je dois exclure certaines expériences, favoriser d'autres. Et au niveau de la pratique, la valeur de la présence révèle que toutes les expériences, agréables comme désagréables, difficiles, douloureuses, plaisantes, ont exactement la même valeur. Lorsque je commence à intégrer ceci, ma manière de me positionner, mon attitude, s'en trouve complètement changée. Donc, moins d'épuisement, moins de lutte, moins de réaction, plus de bien-être, plus d'ouverture, plus de sagesse, plus de compréhension. Voilà ce que vous propose la pratique. Et surtout pour ceux et celles qui débutaient sur ce chemin, j'espère que cette attitude va vous mettre en phase à pouvoir nourrir la pratique dans le bon sens. Et bien sûr, on donnera d'autres éléments, d'autres types d'explications qui vont vous apporter des éléments de compréhension. Mingyur Rinpoche, qui est un maître de la tradition tibétaine, Karma Kagyu, il dit ceci: l'une des principales difficultés que l'on rencontre en essayant d'examiner son esprit est la conviction profonde et souvent inconsciente que l'on est comme on est et que l'on n'y peut rien changer. En vérité, l'état que nous considérons généralement comme « normal » entre guillemets, n'est qu'un point de départ et non le but que nous devons nous fixer. Il dit « Notre existence vaut mieux que cela. » Il est possible de parvenir peu à peu à une manière d'être optimale qui ici signifie libre. Être libre. Quand il dit libre, ce n'est pas libre dans le sens qu'on l'entend, être libre de la souffrance, libre de notre insatisfaction profonde. L'un des grands drames de notre époque, dit-il, est de sous-estimer considérablement la capacité de transformation de notre esprit, alors que nous transformons beaucoup de choses. Heureux sont ceux qui peuvent dévoiler leur véritable potentiel. Donc, vous en êtes. Soyez heureux de pouvoir dévoiler votre véritable potentiel. Donc, l'exploration a un sens très profond, même si elle requiert une attitude de grande simplicité, et aller vers la simplicité n'est pas toujours simple, mais elle a vraiment un sens extrêmement profond. Et je vais donc terminer avec à nouveau la citation de Mingyur Rinpoche, un tout petit texte. Il dit « Accomplir nos aspirations profondes. Qu'est-ce qui est utile à l'homme? La science? La spiritualité? L'argent, le pouvoir, les plaisirs? Pour répondre, il faut se demander quelles sont les aspirations profondes de l'homme. Quel est le but de son existence? Le bouddhisme affirme que c'est la recherche du bonheur. Qu'on ne se méprenne pas sur l'apparente simplicité de ce terme. Le bonheur ici n'est pas une simple succession de sensations plaisantes. Il s'agit d'une plénitude qui naît lorsqu'on a donné un sens à l'existence et que l'on est en conformité, en adéquation avec la nature profonde de son être. Le bonheur est le sentiment d'avoir su actualiser au terme de notre vie le potentiel que nous avons tous en nous et d'avoir compris la nature ultime de notre esprit. Voilà notre magnifique capacité et potentiel qui naturellement est véritablement mis en pratique lorsqu'on est en retraite intensive comme on l'est ici.